Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Delouézy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Bonjour à tous et aujourd'hui nous sommes réunis autour d'un couple de mécènes, Charles et Marie-Laure de Noailles, à l'occasion de la publication d'un livre coédité par la Villa Noailles hier et Bernard Chauveau édition, fruit de 4 ans de travail de leurs auteurs, une quinzaine d'années de recherche et qui rassemble une iconographie extraordinaire et un voyage dans une époque où l'on voit défiler, quasiment comme chez soi, les grands écrivains, musiciens, artistes, mais aussi excentriques, décadents, collectionneurs capricieux ou passionnés, fortunes faites ou aussi infortunes, qui ont marqué le XXe siècle, de Proust à César, de Picasso à Cocteau, à Poulenc ou à Jean Jaurig, de Liffard à Malestévins, Giacometti ou à Buñuel ou Michel Léris. Nous vivons avec ce couple singulier l'évolution de l'art du XXe siècle dans l'intimité de ses acteurs. Nous voyons ces artistes créer, hésiter, s'aimer, se plaindre, solliciter, danser dans des bals drôles et poétiques, mais surtout inventer leur époque. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui les deux auteurs de ce livre, mais écoutons d'abord ce que dit Philippe Julien de ce couple en 1964.
Ce couple a compris plus qu'aucun autre les devoirs qu'impose la fortune, c'est-à-dire servir la beauté, soit en aidant les poètes et les peintres, soit en forçant l'imagination des gens du monde par des fêtes. On pense à cette phrase de Henry James. J'appelle riches ceux dont les moyens peuvent satisfaire les besoins de l'imagination.
Bonjour Alexandre Remard.
Bonjour Jean Loisy.
Vous allez bien ?
Très bien.
Alors avec votre complice Stéphane Boudin-Lestienne, vous avez écrit ce livre, vous êtes vous-même critique et commissaire d'exposition, vous avez collaboré à de nombreux ouvrages sur le surréalisme, le dadaïsme, en suivant en particulier les acteurs de ce mouvement, Raoul Haussmann, Crevel. Vous avez fait de nombreuses expositions sur Charles et Marie-Laure de Noailles, mais aussi Malestévins. Et vous avez travaillé ensemble depuis l'origine sur ce projet ou vous êtes retrouvés autour de lui ?
Avec Stéphane Boudin-Lestienne, on s'est vraiment retrouvé autour de lui et vous utilisez le terme de complice et je crois qu'il est bien choisi. Nous sommes une sorte de monstre à deux têtes tous les deux et nous avançons dans nos recherches.
Alors j'ai devant moi l'autre tête, donc Stéphane Boudin-Lestienne, auteur vous aussi de nombreux ouvrages donc sur Malestévins et les Noailles, donc puisque vous suivez l'un l'autre sur des passions communes, Faust magicien, une lanterne magique chez les Noailles. Et je sais que vous préparez un nouveau livre sur Paul Tissier. C'est qui Paul Tissier?
C'est un architecte qui a créé les fêtes les plus fantastiques sur la Côte d'Azur dans les années 20.
Et donc c'est assez lié à cette famille, Charles et Marie-Laure de Noailles, ou pas du tout?
Ils ne sont pas liés, mais certainement ils devaient. Ils sont très proches dans leur esprit.
La fête, c'est l'ambiance de l'époque un peu, non? Sur la côte, au fond, à ce moment-là.
Oui, ça marque tout à fait l'époque. On a envie de faire la fête, on doit faire la fête et c'est important. C'est vraiment une des marqueurs de ce moment.
Alors avant de se lancer dans parce que j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu ce qu'ont de singulier ces Noailles, ce ne sont pas des mécènes comme les autres, ce sont des mécènes dont on entend souvent le nom quand on fait de l'histoire de l'art et on se demande quelle était la façon de vivre qui est derrière eux. Mais peut-être avant, je voudrais avoir une petite pensée pour notre ami aussi complice, je dois dire, Jean-Pierre Blanc, qui a initié cet ouvrage et qui, depuis 2004, je dois dire, fait de la Villa Noailles un des centres de la création, aussi bien dans le domaine de la mode que du design, et qui est à mon avis, un des lieux maintenant indispensables en France pour ces disciplines. Et il a fait avec vous donc un travail de recherche aussi sur cela. Il a lancé ce livre qui est d'une ambition folle. C'est vraiment un très très gros livre avec une iconographie dingue. Donc, peut-être commençons. Stéphane, vous pouvez nous dire un petit peu d'où vient cette famille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle est... Voilà, comment ça a commencé la vocation de Charles et Marie-Laure de Noailles, qui ne sont pas frères et sœurs, si j'ai bien compris.
Alors, il y a d'un côté, il y a deux destins parallèles. D'un côté, il y a l'héritière d'une énorme fortune. Elle est la seule héritière d'une famille qui décède, en fait, autour d'elle, petit à petit. Déjà, elle perd son père alors qu'elle a 2 ans. Et il est l'héritier de la fortune de la banque Bischoff.
Vous parlez de Marie-Laure ou de Charles?
Marie-Laure.
Quel est son nom, donc, de jeune fille?
Bischoff. Donc, elle descend donc de cette famille de banquiers qui avait commencé au XVIIIe siècle à Francfort déjà à faire fortune dans la banque et qui, après être passée par la Belgique, arrive en France à la Troisième République et très vite se taille une réputation aussi dans le mécénat, dans la collection. Et le grand-père, Ferdinand Bischoffheim, est un immense collectionneur, on va dire, très oublié aujourd'hui, mais qui a réuni en fait des chefs-d'œuvre de très très bon goût.
Gréco, Goya, par exemple.
Exactement. Il y a 3 Goya, 2 Rubens, des Watteau, 1 Rembrandt, un magnifique Géricault, etc.
Donc elle est née dans cette ambiance.
Tout à fait.
C'était aussi une ambiance.
C'est le décor de son enfance, en fait.
C'est aussi une ambiance littéraire ou pas?
Oui, par notamment sa mère. Donc après le décès de son père, épouse en fait
Croisset,
Philippe de Croisset, voilà, qui épouse Francis de Croisset, pardon, qui épouse Francis de Croisset. Donc forcément, il y a une ambiance littéraire à la maison qui est très importante.
Vous pouvez nous rappeler qui est?
Alors Francis de Croisset, aujourd'hui totalement oublié, mais c'est un personnage extrêmement important pour l'époque. C'est un écrivain adulé, hein, qui a pas été très loin de l'Académie française, mais qui publie à ce moment-là, tout ce qu'il publie est un énorme succès. Il a des très gros tirages, il est aussi auteur d'opérettes qui sont extrêmement populaires. Et ce monsieur, en fait, fréquente tout le milieu littéraire. Et il y a notamment, parmi les gens qu'il va fréquenter, un certain jeune monsieur Cocteau, qui arrive par là.
Et qu'il a repéré tout de suite comme quelqu'un qu'il faut aider?
Qu'il fréquente. On va dire que ça fait partie des fréquentations, notamment, tout simplement, parce que la mère de Jean Cocteau est une voisine de la grand-mère de Marie-Laure.
Bon, alors là, on voit que ça va commencer. Mais est-ce que je me suis trompé ou j'ai lu que Proust flottait comme ça dans l'ambiance?
Alors, il fait plus que flotter. Il jette son regard sur cette bonne société qui entoure Charles et Marie-Laure de Noailles. C'est assez amusant parce que des deux côtés, que ce soit du côté de Charles de Noailles ou de Marie-Laure Bischoffheim, on a la présence de Proust. On a la présence de Proust d'abord de manière extrêmement forte et extrêmement emblématique, parce que Marcel Proust va avoir pour modèle, pour Madame de Guermantes, la grand-mère de Marie-Laure de Noailles, qui tient salon. Et Proust, semble-t-il, aurait été éperdument amoureux, de Madame de Chevigné. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il y a une anecdote...
Madame de Chevigné, qui est Madame de Guermantes.
Qui est Madame de Guermantes. Qui est pour beaucoup Madame de Guermantes. Et de l'autre côté, nous avons, pour Charles de Noailles, une petite anecdote assez drôle où, dans une lettre à un de ses amis, Charles Dalton, Proust mentionne qu'il a rencontré le jeune Charles, fils du prince de Foix, et cette scène en fait va se retrouver dans du côté des Guermantes, où dans un restaurant, le narrateur rencontre effectivement le prince de Foix et son fils,
oui,
qui est en fait
Foix.
Voilà, ouais, qui est en fait, Foix, en fait, oui, un nom à peine déguisé pour le prince de Foix et son fils, qui est à dire le père de Charles de Noailles et Charles de Noailles.
Et donc là, Charles et Marie-Laure se rencontrent par dans ce monde.
Alors dans ce monde qui n'est pas exactement celui de Proust, bien qu'il le fréquente, mais plutôt le monde d'Étienne et Édith de Beaumont.
Alors, qui sont des mécènes, des archétypes du mécène avant Charles et Marie-Laure.
C'est ça, c'est la proto-histoire du mécénat moderne en quelque sorte, que la figure d'Étienne de Beaumont, qui est un personnage assez extraordinaire, une sorte de fulgurant. D'ailleurs. le bal du comte d'Orgel est
de
largement
Raymond Radiguet,
de Raymond Radiguet est largement inspiré de la figure d'Étienne de Beaumont
et de bal réel
Beaumont organise avec son épouse Edith des grands bals dans lesquels se côtoient évidemment le Gotha mais aussi le milieu artistique, littéraire, mondain et vraisemblablement c'est lors d'un des bals ou d'une des soirées de Paris organisées par Étienne de Beaumont que se rencontre le jeune homme qui est Charles de Noailles et la jeune fille qui ne connaît pas encore les us et coutumes littéraires et artistiques de la capitale, qui est Marie-Laure de Noailles.
Alors, ce couple, Charles et Marie-Laure de Noailles, on ne peut pas lire l'histoire du XXe siècle sans faire attention à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont soutenu. On va raconter peu à peu ce qu'ils ont. Mais avant peut-être de rentrer dans le détail de leur existence, vous pouvez nous dire, l'un et l'autre, Stéphane ou Alexandre, pourquoi est-ce que, en quoi ce sont des mécènes exceptionnels? Pourquoi est-ce que ce sont des mécènes aussi singuliers? C'est pas simplement des gens qui ont de l'argent et qui payent ou qui aident. C'est un petit peu plus que ça.
Alors, ce qui fait toute la spécificité du couple, et j'insiste sur le mot couple, Charles et Marie-Laure de Noailles, c'est bien effectivement qu'ils inventent une nouvelle forme de mécénat. Effectivement, avant eux, comme nous le disions à l'instant, il y a Étienne de Beaumont qui déjà a cette idée de mêler tout à la fois l'aventure moderne, c'est-à-dire Étienne de Beaumont vend sa collection, si vous voulez, de peintures héritées par sa famille, sa peinture ancienne, pour acheter ce qui est à son époque de l'art contemporain, ce qui est déjà un geste très fort. Parallèlement à ça, il organise des soirées, les soirées de Paris, à la Cigale. Il organise des bals, donc, dans lesquels se rencontrent un certain nombre de personnes et se côtoient, et des projets comme ça, entre différents artistes ou différents intellectuels se créent. Et les Noailles vont prendre ça, vont prendre cet héritage pour lui donner une capacité encore plus grande, mais avec des moyens beaucoup plus importants.
Est-ce que c'est, Stéphane, est-ce que c'est militant? Est-ce qu'au fond, on peut dire que ce sont des militants d'être ultra-contemporains? Ce qu'ils veulent, c'est soutenir ce qu'il y a de plus nouveau, de plus moderne. Est-ce que c'est ça leur ambition? Ou est-ce que c'est simplement vivre agréablement entouré de beaux esprits?
C'est difficile de répondre. Je pense que c'est effectivement c'est les deux. C'est quelque chose, ils se sont pris au jeu et le jeu les a pris. C'est-à-dire qu'il y a une montée, une gradation. Au départ, en quelque sorte, on achète quelques beaux objets, on a envie de se faire construire une maison. Donc c'est encore quelque chose de type, je dirais, égoïste, entre guillemets. C'est-à-dire c'est pour soi-même qu'on fait ça. Et petit à petit, on bascule dans l'aide la plus,
désintéressée.
Désintéressée. Et des grandes... Et surtout, ils vont rajouter quelque chose de très moderne. Ils vont commencer à penser l'idée de la diffusion. Et ils vont donner aux œuvres d'art, non seulement qu'ils produisent, la possibilité, en fait, d'être reproduites, d'être diffusées, de se retrouver dans les revues, d'être diffusé à la radio, d'être diffusé en concert, etc. Donc, d'une certaine manière, ils vont vraiment prendre la mesure de ce qu'est la modernité, de ce qu'est leur siècle, et y adapter les choses. C'est encore un état primitif, je dirais. C'est peut-être tâtonnant. Il y a encore des erreurs, encore des choses qui se font, je dirais, cas à cas. Mais ils sont déjà dans l'amorce de cette pensée-là.
Il y a, si je me trompe, deux maisons qui vont symboliser leur engagement. Une maison parisienne ou très luxueuse, une sorte d'hôtel particulier, et une maison sur la côte qu'on va leur donner. Ces deux maisons, elles ont un état d'esprit un peu différent. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre?
Alors, effectivement, à première vue, elles ont un état d'esprit différent parce qu'elles ont chacun une histoire bien différente. C'est-à-dire que l'hôtel particulier de la place des États-Unis,
dans le 16e arrondissement à Paris,
est un hôtel que Marie-Laure de Noailles reçoit par héritage. C'est l'hôtel Bischoffheim et qu'elle va récupérer à sa majorité après son mariage, en fait, et va totalement le transformer au goût moderne, en demandant notamment à Jean-Michel Franck,
le grand décorateur, ami de Giacometti,
absolument, de faire un certain nombre d'aménagements dans la maison. Mais c'est un hôtel particulier extrêmement luxueux. Il faut s'imaginer une salle de bal absolument incroyable.
Et une salle de cinéma.
Une salle de cinéma qui est dans la salle de bal, mais qui est installée en fait dans... Voilà.
Et il existe encore ces hôtels?
L'hôtel particulier existe encore, oui.
Absolument. Et il est visitable, enfin
Il est visitable, puisque je crois... On peut le dire, c'est le showroom de Baccarat.
Ah d'accord, mais ça n'est plus le...
Ce n'est plus un hôtel d'habitation.
Non, il n'y a plus rien de la famille.
Il n'y a que les murs et quelques traces. On peut encore croiser quelques fantômes en soulevant les tentures. Et donc il y a cette maison, si vous voulez, cet hôtel particulier qui est extrêmement, extrêmement luxueux. Et à l'inverse, a priori à l'inverse, nous avons une maison extrêmement moderne, un château cubiste en quelque sorte, qui est la Villa Noailles, construite par Robert Malestévins, que les Noailles font construire sur un terrain qu'ils ont reçu en cadeau de mariage en 1923.
Donc un petit cadeau de mariage juste au-dessus d'hier, ils ont reçu ce terrain, ils vont vouloir y faire une maison simple, et puis ils vont agrandir le terrain un peu à peu, ils vont acheter ce qui est autour, ils vont développer.
Alors, le projet et la commande passée à Robert Malestévins est très simple. Charles de Noailles dit textuellement qu'il veut une maison intéressante à habiter. On va pouvoir discuter ensuite de ce que cette formule veut-elle bien nous dire. Mais effectivement, c'est une maison très simple, des pièces carrées, petites, un confort a priori relativement sommaire. Et puis effectivement, au fur et à mesure, la maison s'agrandit, c'est-à-dire qu'on passe d'un module en 1924-25 de 250 mètres carrés à peine à aujourd'hui une surface qui fait 1800 mètres carrés, puisqu'on va ajouter une salle à manger pour les enfants lorsque le premier enfant sera à naître, un salon pour pouvoir faire une sorte d'atelier dans lequel on s'est réunis, et puis un squash, et puis une piscine, et puis un gymnase. Voilà, donc ça s'agrandit et ça prend de plus en plus de place sur la colline.
Donc vous allez nous raconter pourquoi Malestévins, ils auraient pu prendre Le Corbusier, ils en auraient pu prendre d'autres, mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est qui va passer dans cette maison. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Pourquoi ça devient une maison historique, ce qui symbolise un petit peu leur élan et leur générosité, leur mécénat?
Au début, ils essayent une petite chose en se disant, bon, la modernité est là, elle existe, elle est de notre temps. Faisons une petite maison moderne pour nous. Et petit à petit, ils ont envie, comme l'expérience leur plaît, ils la continuent. Et justement, ils sont pris, encore une fois, par le jeu. Et donc, il faut rajouter des chambres d'amis, parce qu'on veut que les amis viennent. Et les amis, à cette époque-là, sont évidemment les gens de leur société. Et comme le rappelle Charles de Noailles, dans les années 70, dans un entretien, il comprend qu'à l'époque, il faut bien comprendre qu'à l'époque, cette haute société est prête à recevoir également les artistes à égalité.
Donc, dans la même maison.
C'est-à-dire que dans la même maison, dans des chambres qui sont toutes d'un confort égal, on reçoit.
C'est-à-dire assez austère, en fait, hein, pour tout vous dire. Hier, les chambres étaient sublimes, mais austères.
Austères, mais avec une vue sur le plein sud.
Et un confort invisible.
Un confort invisible.
C'est-à-dire caché dans les murs des tas de facilités.
Et aussi une salle de bain complète. Il faut s'imaginer que donc il y a 15 chambres d'invités et 15 salles de bain. Et que c'est.
On est en 1926, 27, 28 par là.
C'est exactement. Ça par là, ouais. Et c'est donc un des budgets les plus chers à l'époque. On n'imagine pas à quel point une salle de bain pouvait être chère et représenter un luxe extraordinaire à l'époque.
Qui était là? Moi, je veux des noms. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qui étaient leurs copains? Comment ça marche?
Ah, alors, on va commencer forcément par Jean Cocteau.
Un ami de toujours jusqu'à la fin.
Oui, que Marie-Laure rencontre lorsqu'elle a 15 ans. Il vient à la villa à partir de 1929. On va croiser évidemment le peintre Christian Bérard.
Qui est décorateur excentrique, peintre, un petit peu grassouillet. On voit des photos de lui comme ça, un peu toujours les yeux pochés. On a l'impression que la nuit a été longue.
Toujours. Il y a avec son compagnon Boris Coquenot, qui est l'ancien secrétaire de Diaghilev.
Oui.
Et qui
fait le lien avec les ballets russes alors, à ce moment-là.
Exactement. C'est lui qui va reprendre en fait les ballets russes pour devenir les ballets de Monaco, puis les ballets 33 en fait. Toute cette aventure-là, des Noailles avec la danse et la musique, ça passe beaucoup par Boris Coquenot. Donc c'est pour ça que c'est un personnage important. Il y a forcément Man Ray qui vient tourner un film.
On va parler du cinéma, mais c'est vrai qu'il y a un film célèbre qui est pas... Comment est-ce qu'il s'appelle, Alexandre?
Les Mystères du Château du Dé.
Les Mystères du Château du Dé. Les Châteaux du Dé, pourquoi? Parce que ça ressemble à un dé, ils ont pensé à Mallarmé, qu'est-ce qui s'est passé?
Absolument, je pense que c'est tout à fait la référence qu'a Man Ray en tête lorsqu'il vient avec sa caméra. C'est le poème de Mallarmé, bien sûr.
Un coup de dé.
Jamais n'aboliera le hasard.
Voilà.
Il y a un autre cinéaste qui vient, et c'est Luis Buñuel, et il vient écrire le scénario de L'Âge d'Or. Enfin, il vient terminer ce scénario de L'Âge d'Or.
Grand scandale, mais ça, on en parlera tout à l'heure.
Parce que c'est évidemment...
Un délicieux scandale.
C'est les risques du métier qui vont rentrer justement dans le travail en compte dans le travail des mécènes. Son complice d'alors, Salvador Dali, qui vient de faire Un chien andalou.
Qu'ils ont projeté et adoré. C'est-à-dire que faut imaginer l'ouverture d'esprit des Noailles à ce moment-là, parce que Le chien andalou, encore aujourd'hui, est impressionnant. Et à l'époque, ça devait être une révolution.
Eh ben oui, il faut s'imaginer. Man Ray cherche, en fait, pour la première parisienne des Mystères du Château du Dé, une ouverture, un premier film. Et c'est à ce moment-là que Dali et Buñuel sortent Le chien andalou. Et évidemment, ils projettent ça et le choc est immense. La salle hurle d'horreur et les Noailles, eux, sont électrisés.
Oui.
Et comme le dit Man Ray...
Non seulement ils assument, mais ils adorent cette liberté tout d'un coup.
Exactement. Ils attendent que ça et Charles de Noailles, comme le dit Man Ray, est désormais un véritable mordu de cinéma.
Oui.
Et là, ils en veulent. Et ils sont en même temps en train de proposer, en fait, leur aide à Antonin Artaud. Pour un film qui ne se fera pas, parce que...
Oui, c'est compliqué de gérer Antonin Artaud, j'imagine, à l'époque.
Voilà.
Mais je vois les échanges de lettres très très courtois, hein, quand Antonin Artaud dit « je peux pas, je suis parti sur autre chose », etc. Il dit « mais gardez les sommes que je vous ai confiées, je vous en ferai un meilleur usage que moi ». N'est-ce pas? C'est d'une élégance toujours incroyable. Et puis, il y a des musiciens.
Oui, oui.
En fait, lesquels?
Les amis de toujours seront Auric et Poulenc.
Auric, que l'on voit beaucoup associé au film de Cocteau.
Tout à fait.
Par exemple, Le sang d'un poète, c'est ça?
Tout à fait. Puisque, en fait, Le sang d'un poète est un film, selon les mots de Charles et Marie-Laure de Noailles, de Jean Cocteau et Georges Auric. Puisqu'au départ, c'est même plutôt une commande à Georges Auric, en lui disant, il faut que tu fasses un film, que tu fasses une musique. Moi, je veux faire la musique d'un dessin animé.
Ah oui, c'est ce que disait Auric, oui.
Alors, pour faire le dessin animé, on pense à Jean Cocteau. Jean Cocteau dit « je préfère faire un vrai film » parce qu'évidemment, lui aussi a vu Le chien andalou, lui aussi il a vu le film de Man Ray et donc il comprend que c'est le cinéma qu'il faut viser, pas le dessin animé. Et donc là, tout l'enjeu va être de faire une œuvre commune. Et c'est là où les Noailles sont très forts, c'est qu'ils arrivent à réunir les deux.
À faire des liens. Et qui se passe bien. Cela dit, le film de Cocteau, c'est pas vraiment du cinéma, c'est quelque chose de très particulier, c'est de la poésie pure, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre?
Ah oui, et puis je pense que c'est correspondait tout à fait à l'esprit des Noailles, ouais. De savoir mélanger un petit peu tout ça, la poésie, le cinéma, la musique avec Georges Auric. Et on parlait tout à l'heure d'essayer de définir le mécénat des Noailles. Je crois qu'il se définit par ça, c'est-à-dire cette ambition moderne de synthétiser tous les arts, en quelque sorte, de s'intéresser tout à la fois au cinéma, à la musique, à la littérature, aux arts plastiques.
Mais... Parce qu'on n'a pas encore parlé d'André Breton, poète évidemment, mais surréaliste, mais aussi Giacometti, Picasso. Enfin bon,
alors la différence que Picasso, sur la liste des gens qui sont venus à la villa, a priori n'est pas venu à la
non,
villa.
Non, les œuvres sont venues, mais pas lui.
Absolument.
Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous propose, puisqu'on parle de Cocteau, ce serait amusant d'écouter ce que Cocteau dit des Noailles comme mécène justement. Écoutons-le.
Et voilà le véritable rôle du mécène. Le mécène ne doit pas soutenir les bonnes affaires, mais les mauvaises affaires. Certaines mauvaises affaires, les meilleures qui soient, les réussites à longue échéance, les gains mystérieux que les petites bourses ou les bourses arides ne peuvent attendre et qui restent l'apanage des vrais riches, riches de cœur et d'argent. Le vicomte et la vicomtesse de Noailles nous offrent ce noble spectacle. Un grand nom et une grande fortune qui ne cherchent pas à se tenir sous les projecteurs de la mode et qui se placent au-delà, dans l'ombre où travaillent des artistes qu'ils aiment, qu'ils devinent, qu'ils approuvent et qui ne trouveraient nulle part ailleurs le moyen de s'exprimer librement.
Vous Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et nous sommes en train de parler de ce livre qui vient de sortir, Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle. Un portrait inouï de ce mécénat incroyable qui fait défiler autour de nous toutes les grandes figures du XXe siècle. Et je suis avec Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne pour en parler. Et nous étions justement en train de parler de Cocteau. Mais alors, revenons un petit peu sur l'art. Donc, vous avez parlé de Malestévins tout à l'heure qui fait cette villa Noailles inouïe. Pourquoi Malestévins? Parce que c'était un très jeune architecte à l'époque. Il avait fait je sais pas, est-ce qu'il avait fait grand chose déjà à ce moment-là? Dites-nous, Stéphane Boudin-Lestienne.
Alors, il avait commencé une maison pour Paul Poiret.
Inachevée.
Qui reste inachevée parce que 1924, c'est la ruine de Paul Poiret.
La faillite.
La faillite, je dirais, inévitable depuis longtemps, qui fait que le chantier devient une ruine moderne. Et s'arrête comme ça à très peu de temps de l'achèvement. Le toit est posé, etc. Donc l'arrivée de la proposition de Charles et Marie-Laure de Noailles tombe à pic parce que le combat est rude en fait. Il y a Le Corbusier qui lui aussi est en train de signer ses premières petites premières.
Et pourquoi ils n'ont pas pris Le Corbusier? C'était quand même une
ils
figure
se sont pas entendu plus... absolument pas entendu avec Le Corbusier parce que
vous pouvez
m'expliquer justement
pourquoi, ouais.
Le Corbusier veut imposer ses vues, veut imposer à son commanditaire sa façon de voir et de penser l'architecture.
Donc pas question de venir modifier mon plan. Si je fais ça, vous le faites.
Et Charles de Noailles est très précis et dit que même au départ, il n'aurait pas voulu d'architecte. Il aurait préféré juste quelqu'un qui l'accompagne pour réaliser une maison qui est justement une expérimentation. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant à habiter et il ne veut rien de démonstratif. Il ne veut pas d'architecture dans le sens d'une démonstration esthétique. Ça ne l'intéresse pas.
Et pourtant, on peut dire que la Villa Noailles sera une démonstration esthétique.
Parce que Malestévins, c'est plus malin que Le Corbusier, on va dire. Et justement, il rentre à la fois dans les vues du commanditaire. Il fait tout pour effectivement lui obéir et faire ce qu'il veut. Et en même temps, il réussit à faire un objet esthétique magnifique.
Et qui est vraiment de lui, au fond. Parce que quand on voit la Villa Noailles ailleurs, qui est toujours là, qu'on peut visiter, dans laquelle on peut aller voir les expositions ou les défilés de mode, etc., c'est un Malestévins, c'est un très beau Malestévins.
Oui, moi je me lasse absolument pas depuis 15 ans de voir chaque jour la façade, de penser ses proportions magnifiques qui sont comme un calcul savant et en même temps évident. Juste un mouvement, une sculpture posée sur le haut de la colline.
Donc Malestévins va accepter qu'on modifie son plan, qu'on coupe une tour, qu'on en remette une, qu'on ajoute un pavillon, un deuxième, etc. Donc ça va être quand même...
C'est une des premières limites, je dirais, une des premiers iotas à la question justement du mécénat, et du commanditaire. Là ici, les Noailles sont commanditaires et veulent quand même, à un moment donné, imposer une vue en rappelant à Malestévins qu'il voulait une maison fonctionnelle et que la tour, même s'ils ont accepté au départ et ils ont signé le plan, ils pensent que c'est une erreur, cette tour est une erreur, elle rajoute un caractère architectural et esthétique qu'ils ne voulaient pas au départ.
Ils ne veulent pas que ça ressemble à un petit château parce qu'il n'y a pas de prétention, il n'y a pas dans cette maison qui n'a pas de prétention.
Exactement.
C'est un manifeste, mais un manifeste sobre, hein, n'est-ce pas, Alexandre?
Oui, absolument. Et c'est ce qui fait, sans doute ce dessin si particulier de la villa.
Alors, ils vont vouloir l'accompagner d'œuvres et de jardins. Il va y avoir un jardin qui est une sorte de jardin cubiste de Guévréquian. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jardin cubiste?
Alors, ce jardin cubiste est une chose très étonnante. Je ne sais pas si le terme de cubiste est peut-être un peu excessif.
On l'appelle comme ça souvent.
On l'appelle comme ça, je dirais, par défaut, mais c'est un jardin de Gabriel Guévréquian et je ne crois pas que lui-même ait voulu l'appeler cubiste. Malgré tout, effectivement, c'est rentré.
Tout jeune paysagiste de 26 ans ou 25
voilà,
ans.
Voilà, qui fait une démonstration absolument remarquable en 1925 au salon et qui attire l'attention des Noailles qui commandent à ce garçon ce jardin assez extraordinaire qui va finir en quelque sorte le dessin de la villa comme une proue, comme si la villa était un paquebot et que ce jardin était la
proue. Souvent Charles de Noailles parle du paquebot immobile. Hein.
Oui, voilà. Et c'est exactement cette impression-là que l'on a au vu du dessin de la maison et du jardin.
Et dans la perspective, Lipschitz, grand ami de la famille.
La joie de vivre, ouais. Sculpture absolument formidable et qui a la particularité non seulement d'être formidable, mais en plus qui tourne, parce que c'est une sculpture tournante. Elle est sur un pivot électrique qui fait que, voilà, et elle est éclairée la nuit avec des phares de voiture dès qu'elle est installée dans les fin des années 20. Et voilà.
C'est ce qui est assez bien, c'est que Lipschitz dit « Ah, j'aimerais bien que ça tourne » et mais oui, les oreilles disent « Mais un artiste mais peut évidemment. Faire ça, il n'y a pas de problème. »
Évidemment, quel problème.
et donc, il y a aussi un très beau Brancusi, hein, qui a été volé, mais qui était une merveille.
Alors, Brancusi, c'est extrêmement intéressant. Il n'est pas la sculpture, c'est la muse endormie, la fameuse et incroyable muse endormie, qui est posée, et c'est là où c'est très étonnant, sur une colonne Renaissance, chinée ou achetée par Charles Dolin. Donc, il faut s'imaginer cette confrontation assez violente qu'on... À la limite, aujourd'hui, on est très habitué à cela. Mais il faut rappeler que nous sommes en 1929. Nous avons cette colonne Renaissance et quelque chose, un objet extrêmement contemporain.
Oui, c'est une association audacieuse.
C'est extrêmement audacieux et ça montre bien, c'est une sorte de manifeste. Évidemment, ils ne le disent pas comme ça. C'est nous, avec notre regard d'historien, de critique, qui analysons cela comme ça. Mais pour nous, c'est véritablement un manifeste de leur mécénat. C'est-à-dire savoir allier leur héritage, la peinture ancienne, les arts anciens, avec ce qui se fait de plus contemporain. C'est mêler, effectivement, la colonne Renaissance avec Brancusi, maître Watteau, Goya, à côté de Dali et de Picasso.
Et d'une salle faite par Van Doesburg, totalement de style, pour préparer
les bouquets, les bouquets de fleurs. Et oui, Charles Denoy est un passionné de jardin, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il commande ce jardin très moderne à Gabriel Gabrécian. C'est un passionné de jardin et à ce titre, il aime que la villa soit souvent remplie de fleurs dans toutes les pièces et pour les invités et voilà, et en fait envoyer à Paris même à son place des États-Unis. Et pour préparer les bouquets, effectivement, il y a une petite salle à côté du hall de la villa qui est dessinée, dont le dessin est fait par Theo van Doesburg.
Donc c'est curieux, hein, ces associations, parce que donc il y a la peinture ancienne, Brancusi, Lipschitz, Laurence aussi, mais ça, Laurence est à Paris, je crois, mm-hmm. Non, plutôt à Paris.
Et ailleurs aussi.
Et ailleurs aussi.
Mm-hmm. Ouais. Tout à fait.
Voilà, Laurence, grand sculpteur cubiste aussi, enfin bon, qui a évolué au-delà du cubisme, bien entendu. Et puis il y a une absence qui est très étrange quand on regarde tous les artistes qu'ils ont aimés, c'est l'absence de Matisse. Comment peut-on être sur la Côte d'Azur, fréquenter tous les artistes de la Seine et ne pas avoir Matisse ? Est-ce que vous avez une réponse à cela, Stéphane ?
Alors. Non, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a d'autres trous, comme par exemple Magritte. Marie-Laure elle-même va écrire, va devenir écrivain et va écrire notamment sur l'art un de ses derniers livres, des chroniques qu'elle a fait dans la revue des saisons, qu'elle a recueilli sous le titre Le journal d'un peintre, où elle parle de Matisse, elle parle de Magritte, mais elle ne les a pas collectionnés. C'est comme un concours de circonstances, ça ne s'est pas fait, tout simplement. Et ça faisait rire son ami James Lord, lui disait « Mais tu as été portraituré par Picasso, par Balthus, par Dali et pas par Matisse. Alors attends, je vais te faire un dessin. » Et il lui a fait un
faux Matisse. Ça, c'est dans le livre
Matisse.
D'or de la maison.
C'est dans un des scrapbooks de Marie-Laure. On a un portrait de Marie-Laure par Matisse, entre guillemets.
Un faux.
Fait par James Lord.
Voilà. Qui est le grand collectionneur qui habitait pas très loin du Zès, je crois.
Voilà, et qui est aussi un personnage important pour la carrière de Giacometti après.
Alors Giacometti, puisque vous en parlez, donc Giacometti, lui, est venu, mais il était encore très jeune, on était dans les années, début des années 30, c'est avant la période des grandes femmes étirées, n'est-ce pas ?
Ah, c'est bien avant, c'est juste après son exposition en 1929 à la galerie Jeanne Bûcher, sa première exposition à Paris, dans laquelle il présente cette fameuse Tête qui regarde ou Les femmes plates, qui sont des œuvres qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, mais qui, il y a encore quelques années, étaient assez peu connues dans la production de Giacometti, puisque effectivement, on connaît les hommes et femmes qui marchent, voilà, qui sont toutes dans notre imaginaire collectif, mais la période surréaliste est un peu moins connue. Néanmoins, les Noailles le découvrent lors de cette première exposition en 29 et lui commandent en fait une sculpture monumentale en quelque sorte en pierre qui sera en pierre de
Bourgogne. Ils achètent une tête plate.
Ils achètent une tête plate.
Donc, ça veut dire quand même. Il y a un œil, il y a une curiosité incroyable.
Ce sont des vrais regardeurs, Jean Loisy. et à ce titre, oui, ils arrivent à déceler comme ça, de manière assez incroyable, Giacometti ou encore Dali, qui est très jeune lorsqu'ils le rencontrent.
Dali, donc ils achètent très vite un tableau, je sais plus, c'est le grand masturbateur ou c'est ou Lénine, le portrait de Lénine, je sais plus.
Non, c'est
le jeu lugubre,
ouais. qui est un très audacieux parce que il y a c'est celui où il y a un slip maculé de merde en fait, hein.
Absolument.
Ouais. Et ça leur fait pas peur?
Oui, et en plus à la première exposition de à la galerie Gomans de Dali en décembre 29, le tableau est déjà acheté et donc ils le remettent publiquement. Collection Vicomte de Noailles.
Donc ils affichent leur audace.
Et ça fait partie des choses...
Prétention, hein, je pense. Hein.
Non, par envie d'aider l'artiste.
Oui.
Ça a toujours été... C'est très rapidement, même déjà avec les artistes décorateurs. Par exemple, il y a un courrier à Joe Bourgeois, un décorateur qui va travailler beaucoup pour les Noailles. Ils lui disent... Mais, bien sûr, vous pouvez exposer le petit bar que vous êtes en train de faire pour nous au salon et mettez mon nom,
oui,
si ça peut vous faire de la publicité.
Oui. C'est comme aujourd'hui, on dit ça, c'est collection François Pinault, et c'est bon pour l'artiste.
C'est-à-dire qu'ils sont en fait ceux qui sans doute vont inventer cette manière d'être mécène, c'est-à-dire d'être prescripteur et de l'assumer comme tel. Et il y a une formule qu'on aime bien avec Stéphane qui dire que les mécènes sont les Noailles sont les mécènes à l'ère de la reproductibilité technique de l'œuvre d'art.
Oui.
C'est-à-dire que parce qu'il y a l'essor de la presse artistique notamment
entre Benjamin et Malraux en fait, hein,
exactement.
Les héritiers des images.
C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont aider les artistes en associant leur nom aux productions.
Ouais, c'est très intéressant. Et Dali, pour revenir sur Dali, puisqu'il y a une sorte d'affection ou de soutien réel au début, en tout cas, de la carrière de Dali. Si je me souviens bien, Dali va même leur demander de l'aide pour s'installer où ça, à Port-Ligat?
Tout à fait. Charles de Noailles a proposé de l'aide à Dali, qui s'en saisit. Tout simplement, il lui dit dans une lettre, écoutez, vous m'avez demandé de l'aide. Alors, vous m'avez demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour acheter, j'ai besoin de 20 000 francs pour acheter une petite maison de pêcheur à Port-Ligat.
Pour vivre mon amour avec Gala, en fait. Hein.
Tout à fait. Et c'est effectivement une petite maison modeste, mais qui va être le cœur, l'origine de la grande maison, puisque petit à petit, ils vont faire comme les Noailles, ils vont racheter toutes les propriétés autour et faire une sorte de maison...
D'œuvre d'art totale.
Exactement.
Voilà. Mais ça, c'est le moment où Dali devient aussi un peu avide à de l'art. Donc, c'est un autre moment. Mais c'est vrai que c'est grâce à cette aide. Et d'ailleurs, leur aide, je me souviens d'un épisode que vous racontez dans votre livre, dans lequel Marie-Laure est sollicité par Dali ou par ses amis pour faire un petit groupe pour l'aider en échange de tableaux. Vous pouvez raconter ça?
Oui, ça, c'est le groupe du Zodiac. Et c'est une idée qui est a priori lancée par Gala et qui est prise en charge par le prince de Faucigny du Singe et quelques amis dont les Noailles. C'est un principe tout simple. Le groupe du Zodiac, ils sont 12. Ils payent chacun une mensualité. Et à la fin de l'année, au mois de décembre, ils se réunissent tous lors d'un dîner et par tirage au sort, ils s'octroient chacun un tableau. Voilà. Ça permet à Dali et Gala de vivre tranquillement durant une année.
Un club de collectionneurs mécènes.
C'est ça, exactement.
Voilà. Ça existe maintenant, bon. C'est plus courant, mais à cette époque-là, c'est vrai que c'était difficile. Alors, il y a une chose, il y a un épisode comme ça, j'aimerais bien que vous en parliez parce que je me souviens avoir lu dans votre livre qu'il y a des moments où c'était pas simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préjugés, cette fois-ci non pas de la part du milieu mondain qui les trouverait trop audacieux, mais du milieu des artistes qui les trouvent trop riches.
C'est
assez politique, c'est une position politique là. Qui...
Oui, c'est Jacques Prévert,
Alexandre,
surtout.
Ouais, Prévert, qui, mais Buñuel au début aussi.
Buñuel, effectivement, qui a quelques doutes et puis qui se laisse facilement convaincre puisque finalement tous les copains sont là. Donc, a priori, donc, c'est que tout va bien et ces gens sont sans doute formidables.
Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment marxistes-léninistes à cette époque-là, donc, et qui sont dans le vieux et qui se laissent faire.
Qui se laissent faire et puis les Noailles se laissent faire aussi en quelque sorte puisqu'ils accueillent. Ce qui compte, c'est l'intérêt artistique et intellectuel, peu importe l'obédience, quasiment.
Oui. Mais Buñuel, au début, il dit comment, etc. Alors, et puis il dit, mais je me rends compte que c'est plus compliqué que ce que j'avais imaginé.
C'est ça.
Ou André Thirion, l'occurrence aussi, qui fait un scandale, qui renverse le buffet, etc., insulte tout le monde. Mais, et puis finalement, c'est Crevel qui va lui expliquer que ces gens-là sont au-delà des préjugés sociaux. Même si c'est a priori impossible que des aristocrates, milliardaires, financent en quelque sorte la révolution. eh bien si, c'est possible, et ça se passe très très bien. Et c'est là où il y a une sorte de miracle, quelque chose d'inattendu.
Alors, j'aimerais bien qu'on va quitter un instant le monde des artistes, et puis il y a autre chose qui se passe, c'est le sens de la fête. Alors peut-être pourrions-nous être invités à un bal. Écoutons.
La vicomtesse de Noailles sera chez elle. Le mercredi 19 juin, bal costumé, 10 heures. On est prié de ne pas venir en étoffe usuelle d'habillement. Suggestion ? Toile cirée, vannerie, végétaux, plumes, cuir, tissus d'ameublement, papiers et cartonnages divers, etc., etc. Les invités sont reçus par le maître de cérémonie. Cela formait une foule bariolée, étincelante de couleurs et d'éclats, où chaque pays, chaque époque avait mis son empreinte. C'était à la fois l'Orient, les steppes, le sacré et le profane, l'adorable et l'impossible. Nous étions sur la terre, dans le soleil, la lune, quelque part dans l'infini. Maurice Saxe se souvient des désagréments de sa tenue. Mon costume en caillou me plaisait beaucoup, mais il n'a plu à personne, parce qu'il faisait horriblement mal aux danseuses et qu'il avait l'air sale. Il y avait à l'infini des plumes, de la paille, de la toile, du bois, qui étaient quelques centaines de personnes.
Ce sont les mémoires de Jean-Louis de Faucigny-Lucinge, un gentilhomme cosmopolite de 1990. Et nous sommes sur France Culture, nous écoutons l'art et la matière, et nous parlons de Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, un livre qui vient de sortir. Je suis avec ses auteurs, Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne. Et donc nous sommes invités à l'instant dans ce bal, parce que les bals avaient beaucoup d'importance, non seulement ça mélangeait probablement les sociétés, mais aussi c'était des moments de créativité collective, non ?
Absolument. Et c'est un des principes fondateurs du mécénat des Noailles, que ces bals et ces fêtes. Pourquoi ? Parce que dans un bal, dans une fête, évidemment, on invite ses amis et l'ensemble de la bonne société à participer et à s'amuser, mais surtout on commande à des artistes des entrées pour ces bals, ou des petites interludes.
Des si entrées, vous voulez dire, au sens une scénette, voilà. Ou une musique,
c'est
ou un
ça.
Ballet.
Absolument. Ou... Donc on commande par exemple à Georges Auric, dont nous parlions tout à l'heure, une musique pour accompagner des peintures de Jean Hugo qui sont projetées à l'aide d'une lanterne magique. C'est le Faust magicien sur un livret, donc on commande aussi un livret. Ou alors on commande une petite ensemble orchestral à Francis Poulenc avec un petit ballet. Voilà, donc si vous voulez, c'est des moments où ça permet de rétribuer des artistes sans qu'ils aient à quémander.
Oui, c'est très joli. D'ailleurs, c'est une technique qu'ils ont aussi pour la littérature. J'ai remarqué. C'est-à-dire que très souvent, j'ai eu l'impression, en lisant votre livre, qu'ils aidaient les auteurs en leur disant « je sais que vous avez besoin de quelque chose, ben vous me donnerez votre manuscrit, puis je... »
Il y a une grande élégance dans leur mécénat.
Stéphane, pardon.
Avec beaucoup de stratégies différentes. On peut faire un club de mécènes, comme on a dit, pour
Dali. Ouais.
Pour Dali. On va faire une société de musique de chambre pour faire commander des œuvres et les faire jouer. On va demander un manuscrit, etc., etc. En fait, on va changer de manière de faire. On va payer la résidence d'été d'Henri Sauguet pour qu'il puisse finir son opéra. La Chartreuse de Parme, etc., etc. En fait, on va toujours avoir trouvé une idée élégante qui va pas encombrer l'artiste de trop de dettes envers son mécène.
Donc en fait, il cherche à ne jamais obliger.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment très joli, je trouve.
On va collectionner des œuvres, les acheter, leur racheter. Et ils vont aussi, on pense, acheter beaucoup, par exemple, à Éluard, d'œuvres qui viennent d'autres artistes. Parce que Éluard, en fait, finalement, certes, il est poète, mais il vit en fait de la vente d'art, en fait, de ses amis.
Bien sûr.
Donc ça passe beaucoup par ce genre de choses aussi.
Ce que faisait aussi d'ailleurs André Breton pour Doucet, par exemple. Ça, c'est une finesse. Et Breton, justement, sera un des personnages très aidés, juste dès 26, juste après le Manifeste du Surréalisme, pour ses livres suivants. Et
pour la revue, surtout, c'est ça.
Et pour le Surréalisme même, ou bien
Le Surréalisme au service de la Révolution, donc qui est la seconde revue du mouvement. Et ça, c'est un des petites trouvailles qu'on a pu faire avec Stéphane dans nos recherches, c'est de s'apercevoir que, effectivement, on savait que les Noailles étaient mécènes des surréalistes. Voilà. Mais là, concrètement, on avait des chiffres, et on a surtout compris qu'une grande partie de la production littéraire, que ça soit la revue effectivement au service de la Révolution ou des ouvrages d'André Breton notamment, étaient financés par les Noailles parce qu'ils donnent de l'argent très gracieusement aux écrivains, mais c'est pas seulement pour vivre, c'est aussi pour permettre aux revues et aux ouvrages d'être diffusés,
parce
d'être imprimés en fait.
Ils soutiennent à la fois André Breton et ses amis, mais aussi Georges Bataille et ses amis, qui sont deux...
Alors, c'est deux clans.
Deux clans.
C'est là où on peut avoir, je crois, une grande admiration pour les mécènes. C'est-à-dire que, généralement, un mécène s'intéresse soit à la peinture, soit à la sculpture, soit au cinéma, soit à la musique. Voilà. Eux, ils s'intéressent à tout. Mais non seulement ils s'intéressent à tout, mais ils s'intéressent à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ils s'intéressent beaucoup au surréalisme. Ils aident André Breton. Ils aident infiniment René Crevel, Aragon, Sadoul. Mais ils aident les dissidents du surréalisme, à savoir notamment, par exemple, Georges Bataille en achetant en 1929 l'Histoire de l'œil.
Qui est quand même un texte extrêmement audacieux, mais qui est à la suite aussi d'un achat qu'ils ont fait, qui est un achat extraordinaire, qui est le rouleau de Sade.
Les 120 journées de Sodome.
Voilà.
Absolument.
Et la photographie de Boiffard reproduite dans votre livre est formidable. Et puis ce manuscrit vient d'avoir de nouvelles aventures et est en train d'en vivre d'autres, n'est-ce pas? Puisqu'il est passé, il a été volé, puis maintenant il a été passé
absolument
à tel endroit.
Et on espère, en tout cas, maintenant il est dans les collections nationales et nous nous en réjouissons.
Voilà. Mais alors justement, donc ça, c'est grand collectionneur, mais aussi passionné. Alors ça, c'est Charles, peut-être plus particulièrement, passionné par l'ethnographie, par mais pas passionné par l'ethnographie comme quelqu'un qui aimerait faire une belle collection de masques, ce qu'il avait évidemment, mais aussi comme quelqu'un qui aide le musée du Trocadéro, qui va devenir le musée de l'homme à un moment crucial.
C'est-à-dire que, alors, ils sont pas tant collectionneurs d'ethnographie que cela, et c'est ça qui est
encore
intéressant.
Mieux. Encore mieux.
Voilà, c'est-à-dire que effectivement, ils achètent quelques pièces, sans doute à Charles Raton, qui est le grand galeriste,
oui,
ce qu'on appelle des arts premiers aujourd'hui. Mais c'est très peu, c'est assez insignifiant. Non, ce sont des vrais mécènes, mais c'est des mécènes d'une aventure muséographique. On évoquait la revue Document, donc la revue de Georges Bataille et de Georges Henri Rivière, qui est en fait en 1929, totalement discordant avec le surréalisme. Ce sont des anciens surréalistes qui créent ça. Ils sont trois. En gros, Rivière, Bataille, Léris. Et cette revue va être une revue d'art, de littérature, mais ça va être aussi une revue qui va être un laboratoire d'idées pour cette science nouvelle qui s'appelle l'ethnographie et qui arrive en même temps que la reconstruction d'un musée, qui est ce qui deviendra le musée de l'homme. Charles de Noailles fréquente Georges-Henri Rivière, qui est un grand ami, muséographe, ô combien important dans l'histoire du XXe siècle.
Du musée des arts et traditions populaires, par exemple.
Voilà, absolument. Et Georges-Henri Rivière, qui est au comité de lecture de la revue Document, est aussi le sous-directeur de ce nouveau musée qui est en train de se créer, qui est le musée de l'homme. Donc très naturellement, si vous voulez, Charles de Noailles s'intéresse aux découvertes ethnographiques et à cette nouvelle science qui est en train de se créer.
Et peut-être écoutons ce qui s'est... La façon dont on présente à ce moment-là la chose qu'ils vont soutenir le plus, enfin, corrigez-moi, c'est cette fameuse mission. Qu'est-ce que c'est que cette mission?
Alors, c'est la mission Dakar-Djibouti qui, pendant 18 mois, entre 1931 et 1933, va emmener un certain nombre de pieds nickelés, comme ils se définissent eux-mêmes, à savoir emportés par Marcel Griaule, Michel Léris.
Alors, Griaule qui avait fait le grand livre sur les Dogons et sur Ogotomélie en particulier, Michel Léris, qu'on ne présente pas, qui, de Bacon à Picasso à la collection ethnographique, fait son travail sur le art.
Absolument, sur les arts,
ouais,
qui
les
sont
arts.
Des esprits plus ou moins maléfiques.
Éthiopiens.
Absolument. André Scheffner, grand musicologue, Gaston Louis Roux, qui est peintre, bref, un ensemble de scientifiques, d'artistes, d'intellectuels, qui vont pendant 18 mois traverser l'Afrique de l'Est à l'Ouest et mettre en application, ou tenter de mettre en application du moins, les nouveaux principes de l'ethnographie, qui serait une ethnographie non plus sous casque colonial, si vous me permettez l'expression, mais plutôt à hauteur d'homme. Voilà.
Alors écoutons ce que... Voilà, allons-y. Écoutons ce qui... le programme.
Cette expédition devenue quasi légendaire dans l'histoire de la discipline constitue la première application sur le terrain d'une typologie nouvelle de recherche. La collecte à la source d'informations aussi bien matérielles qu'immatérielles. Linguistique et ethnographique, la mission doit être le modèle des nouvelles théories et pratiques, comme le proclame Rivière. Un ethnographe, frémissé collectionneur, traite avec une égale considération les objets courants et les objets exceptionnels. Ceci parce qu'ils témoignent de faits insolites, cela parce qu'ils nous donnent les caractères moyens, donc essentiels, d'une civilisation donnée.
Cette mission est un des grands faits ethnographiques qui fondent la nouvelle ethnographie que Mauss, Griaule et les autres vont donc créer. Ça va aboutir à des grandes divergences idéologiques, j'ai l'impression. Mais quand même, là encore une fois, on sent que les Noailles sont à la pointe d'une curiosité nouvelle.
Le mot fondateur dans la phrase qui vient d'être citée, c'est d'utiliser le mot « civilisation » pour parler de ce qu'on nommait avant les sauvages,
oui,
de ce qu'on plaçait dans la sphère exotique. Donc en fait, on va vraiment parler de civilisation, on va analyser sérieusement ces peuplades, on va vraiment les considérer comme des gens qui ont un langage, qui ont des mythes, qui ont une production artistique, qui sont des artistes, etc., etc. Donc en fait, toute cette panoplie-là va être prise en compte, et c'est un changement de regard qui est tellement important. Et quand on sait qu'en plus que l'ethnographie devient une sorte de matrice pour la pensée intellectuelle du XXe siècle, sur le structuralisme, sur énormément de choses qui vont venir par la suite, on peut comprendre à quel point le mécénat sur la création de ce musée et l'accompagnement de ce progrès intellectuel est finalement extrêmement important. Et ça, c'était quelque chose qui nous avait choqué en fait avec Alexandre, c'est que ce mécénat qui est crucial dans l'histoire des Noailles soit si peu évoqué ou rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un peu deux, trois mots par-ci, par-là.
Mais c'est vrai que les Noailles, on en parle toujours à propos de l'art, des arts plastiques et de l'architecture et de la décoration, puisque Franck, c'est quand même un nom immense dans ce domaine-là, mais on pourrait parler d'Hélène Gray et de beaucoup d'autres qui ont fait partie de l'aventure. Mais on en parle rarement à ce propos-là et on se rend pas compte de l'importance du cinéma. Parce que quand même, c'est cette passion du cinéma dévorante pour faire des courts-métrages à peu de frais, c'est étrange. Comment est-ce que c'est venu? Quel est le contexte de l'époque du cinéma d'ailleurs?
Alors, c'est un contexte assez rigolo en fait, l'aventure du cinéma, le début de l'aventure. Le Parti communiste organise via le club, les amis du club de Spartacus, des projections de films soviétiques et auxquels sont, pas invités, mais en tout cas auxquels sont accueillis des gens de la bonne société. Au milieu de ses ouvriers, donc les Charles de Noailles met une casquette, une veste et va voir le cinéma soviétique. Voilà, et il rencontre l'organisateur de ce mouvement des clubs de Spartacus, qui est Léon Moussinac, grand critique de cinéma et d'architecture. Et Léon Moussinac lui présente son beau-frère, Jean Lodz, qui va faire avec le frère de Dziga Vertov, Boris Kaufman, un film.
Dziga Vertov, l'homme sans caméra, une des figures clés de l'histoire du cinéma d'avant-garde.
Absolument.
Et sans scénario et sans caméra.
Et
pas sans caméra, que je suis bête.
C'est l'homme à la caméra.
L'homme à la caméra, sans scénario. Et sans acteur, en fait.
Et en fait, Boris Kaufman et Lodz vont faire ce même film, qui va s'appeler 24 heures en 30 minutes, financé par Charles de Noailles. C'est la première aventure cinématographique. Vient ensuite Avec la villa, l'idée de faire un film à la villa, c'est Biceps et bijoux de Jacques Manuel. C'est pas terrible, ils sont pas très contents, donc ils demandent à Man Ray de faire le fameux film Le mystère du château du Dé. Donc ça, c'est la première partie de l'aventure cinématographique. Et puis il y a la rencontre avec Buñuel et Dali.
Énorme.
Voilà. Et ce désir, Jean Cocteau et Auric de faire ce film. Deuxième période.
Alors, Buñuel et Dali, pardon, mais vous en avez parlé tout à l'heure, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que ça a été un échec terrible, qu'ils ont eu mis du temps à s'en remettre, et ils ont assumé pleinement, au fond, leur choix et leur engagement derrière ce film.
Je sais pas si je dirais que c'est un échec.
C'est une réussite immense. Voilà. Mais c'est un échec sur le moment, un scandale épouvantable.
C'est le scandale qui défrait la chronique à ce moment-là, qui est alimenté par la presse d'extrême droite, qui attaque très fortement Charles de Noailles, aristocrate qui se permet des ignominies invraisemblables avec.
Parce que c'est anticlérical. C'est un film qui est quand même violemment anticlérical. Et ils le ressentent. Mais aujourd'hui, dites-moi, Stéphane, il nous reste une minute. Est-ce que vous avez l'impression que cette grande expérience des Noailles est un modèle pour le mécénat du 22e siècle ? On va se laisser un peu de temps pour assumer le mécénat du 21e.
Oui, probablement, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et de toute façon, je trouve que c'est toujours intéressant, notamment cette question du scandale de l'âge d'or, sur la question de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'un mécène, justement, est-ce qu'il doit prendre la responsabilité de ce que fait l'artiste, de l'artiste qu'il finance, etc. Donc ça, c'est selon des questions qui sont globales et qui se posent, en fait, constamment. Que vous soyez directeur de musée, que vous soyez mécène privé, etc. Que vous donniez un prix, que vous donniez quelque chose. Est-ce que l'institution ou la personne qui donne ce prix doit endosser le discours de l'artiste. Donc en fait, cette question-là, elle est toujours d'actualité, elle se voit tout le temps. On rappelle la phrase que disait aussi les risques que prennent les mécènes. On rappelle la phrase que disait André Breton dans le manifeste pour défendre l'âge d'or. Il disait « Depuis quand en France n'a-t-on plus le droit de se moquer de la religion ?» C'est quelque chose qui pourrait être répété encore et encore aujourd'hui.
Et surtout, tout ce mécénat est fait avec une très très grande bienveillance. Je dois vous remercier, Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne, pour ce travail de 15 ans que vous venez de synthétiser dans ce très très beau livre « Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle » aux éditions Bernard Chauveau et Villa Noailles. Et je pense donc évidemment à l'extraordinaire directeur qu'a la Villa Noailles aujourd'hui, Jean-Pierre Blanc, à qui on doit la poursuite de cette aventure d'une certaine façon.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu les historiens Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne pour parler de Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, à l'occasion de la parution d'un livre très important qui vient de sortir aux éditions Bernard Chauveau, Villa Noailles. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur notre site franceculture.fr. Lecture des textes La Belle Voix de Lara Brulle, collaboration Seam Boutata, prise de son Pierre Monteil, réalisation notre cher ami Franck Lilin. Et à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot, une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.